Besoin de me rapprocher, c'est bon?
C'est parfait.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.
Bonjour à tous. Alors, la dernière émission de La Voix des Arts consacrée aux créatrices au cinéma, les pionnières, nous étions en Allemagne pour y rencontrer une comédienne, écrivaine de romans, des romans qu'elle adaptera au cinéma. Et donc, il s'agissait d'une scénariste nommée Thea von Arbou, née fin 19e siècle en 1888. Et grâce à notre entrée en Allemagne, début du 20e siècle, nous avons pu nous rendre compte du climat qui régnait suite à la guerre 14-18 et aux événements politiques qui ont influencé la création artistique en général, et notamment au travers de l'expressionnisme. Alors aujourd'hui, nous continuons notre visite. Nous restons donc en Allemagne pour rencontrer d'autres créatrices au cinéma, en tout cas des femmes impliquées dans le développement du cinéma allemand. Et justement, en évoquant ce mouvement, l'expressionnisme qui naquit en Allemagne en se faisant le reflet des inquiétudes, des angoisses des artistes, eux-mêmes influencés par le vécu de la société de l'époque, de la politique, la guerre, eh bien, j'aimerais évoquer une critique de cinéma qui traita le sujet en reconsidérant le cinéma expressionniste allemand qui, comme je vous l'ai dit la dernière émission, se révéla début XXe siècle au travers du cinéma muet et particulièrement, qui était particulièrement bien adapté à ce mouvement, ne serait-ce que par l'exagération du jeu des acteurs, des décors dont le style se faisait l'écho, en quelque sorte, de peinture expressionniste. Alors la critique en question se nomme Lotte Eisner, une figure majeure du cinéma en général. Elle est née en 1896, qui en plus d'être critique de cinéma, obtint un doctorat en art et fut également historienne d'art et écrivaine. Et de plus, elle était polyglotte, car elle parlait français, anglais, italien, en plus de l'allemand, grâce à quoi elle écrira à la fois pour des revues allemandes et françaises. Et notamment, elle éditera un livre très important sur le cinéma allemand, livre daté de 1952, intitulé « L'écran démoniaque », où elle nous livre une analyse sur plus d'une quarantaine de films tournés entre 1920 et 1933, en mettant l'accent ou en faisant la lumière sur des réalisateurs comme Friedrich Murnau ou Fritz Lang, et ces réalisateurs que je vous ai présentés dans le dernier numéro de La Voix des Arts, ainsi que leurs films, comme Métropolis, qui était tiré du roman de Thea von Arbou, ou Le Docteur Mabuse, réalisé par Fritz Lang, ou encore Le Nosferatu de Murnau. Alors, en proposant l'intitulé « Écran démoniaque », elle se réfère non pas au démon dans le sens où nous l'entendons habituellement, mais plutôt dans le sens de spirituel ou qui aurait trait à la nature de pouvoir surnaturel. Alors, il s'agirait là davantage du daimon, daimon D-A-I-M-O-N, en lien avec la tradition grecque antique et qui fait allusion au spirituel et au divin, ou si on veut l'expliquer d'une manière qui serait peut-être un peu plus profane, à cette part en soi, qui est en soi, en chacun de nous, qui agit comme une force créatrice et nous permet de nous inspirer pour nous guider sur notre véritable chemin intérieur. Et il est à noter que le psychanalyste Jung, dans ses recherches, a également fait allusion au daimon. Alors, transposé au cinéma, Lotte Eisner y évoque l'esprit allemand, elle aurait placé en épigraphe de son livre une citation du philosophe allemand Léopold Ziegler, né en 1881. Et je cite, « L'homme allemand, c'est l'homme démoniaque par excellence. Démoniaque semble véritablement l'abîme qui ne peut être comblé, la nostalgie qui ne peut être apaisée, la soif qui ne peut être étanchée. » Bon, ce qui me laisse entendre que l'homme allemand est conscient d'être en quête hein, d'un quelque chose d'impalpable, d'invisible en lui-même, et qu'il en a soif d'une certaine manière. Alors, pour revenir au parcours de vie de Lotte Eisner, elle s'installera en France en 1933 pour échapper aux persécutions nazies. Alors, peine perdue, hein, car elle sera quand même internée dans un camp en France, dans les Pyrénées-Orientales, dont elle réussira à s'échapper et se cacher. Et ceci dit, elle sortira de tout ça, et c'est en France qu'elle deviendra par la suite la conservatrice de la Cinémathèque française en 1945, et ce jusqu'en 1975. Et à ce poste, elle va consacrer son temps à rassembler tout ce qu'elle peut sur le cinéma en contactant ses relations, c'est-à-dire les réalisateurs, les acteurs, les techniciens, les décorateurs, pour les convaincre de chercher les informations et les lui fournir, et notamment sur le cinéma allemand d'avant-guerre. Or, malgré tout ce travail qui fait que le musée lui doit les trois quarts de son espace, hein, elle ne sera pas mentionnée lors de l'inauguration qui aura lieu en 1972, ce qui lui fera écrire dans ses mémoires, avec certainement une certaine amertume, et je cite, « J'étais le chien qui rapporte ». Alors, c'est pas très valorisant comme comparaison. Ceci dit, en plus de cette publication très instructive sur le cinéma allemand intitulée « Écran démoniaque », elle a écrit ses mémoires en publiant un livre intitulé « J'avais jadis une belle patrie ». Alors, le titre semble assez nostalgique, hein. Bon, si dit, je n'ai pas lu le livre, et ce livre aurait été traduit en français et publié en 1984, et il relate son passé d'Allemande et notamment sa fuite de l'Allemagne nazie, son arrivée en France et comment elle s'est cachée dans le Lot, ainsi que son périple français. Or, par contre, hein, elle recevra quand même l'hommage de la nouvelle vague allemande et notamment d'un réalisateur nommé Werner Herzog qui, en 1974, n'hésitera pas à traverser à pied l'Allemagne et la France pour, en quelque sorte, conjurer le mal qui affectait Lotte Eisner hein, grâce à ses efforts. Ainsi, il espérait qu'elle guérirait. Or, c'est vrai que ça relève de la pensée magique, hein, penser qu'on va marcher pour quelqu'un, qu'on va faire des efforts pour la soigner. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Est-ce grâce à lui, j'en sais rien. En tout cas, elle guérira pour vivre encore quelques années et elle décédera en 1983 au bel âge de 87 ans. Et elle recevra quand même pour son travail le prix spécial de la meilleure contribution au cinéma allemand, ce qui semble être quand même un juste retour des choses. Alors une petite pause musicale nous fera le plus grand bien. C'est en compagnie d'une Allemande que nous allons la faire pour une petite entrée en matière afin de rentrer dans cette ambiance typiquement allemande de ce début du XXe siècle grâce à une actrice chanteuse qui se fit remarquer au cinéma et devint une célébrité. Et dans ce film allemand intitulé « L'ange bleu » réalisé en 1930 par Joseph von Sternberg, elle chante sur la musique écrite par Friedrich Holländer, compositeur de musique de film, dont « L'ange bleu » est la première création. Et par la suite, ce compositeur écrira quand même la musique de plus d'une centaine de films. Alors, inutile certainement de vous présenter Marlène Dietrich, une égérie de l'époque qui fuira néanmoins le nazisme et s'y opposera à sa manière. Au moment où elle joue dans L'Ange bleu, c'est une jeune femme de 29 ans qui interprète un rôle quelque peu sulfureux où elle apparaît en danseuse de cabaret. légèrement vêtu, en tout cas, de manière quelque peu suggestive. Il est sûr que son passage ne passa pas inaperçu, qu'elle enflamma à l'époque bien des imaginations masculines. En tout cas, nous allons l'écouter dans cette chanson intitulée « Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe hingestellt », qui se traduit en français, et je ne pense pas me tromper, par « Je suis prête pour l'amour de la tête aux pieds », ce qui est quand même un charmant programme.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, à ces époques troublées, l'expressionnisme ne fut pas l'unique mouvement artistique, car il faut aussi mentionner ce mouvement qui a été appelé la nouvelle objectivité, dont la traduction de l'allemand en français reste quelque peu imparfaite, car le mot allemand est difficilement traduisible. Et l'origine de ce mouvement ne vient pas d'une volonté des artistes, mais plutôt du regard extérieur que l'on porterait sur leur travail. Et ça a été le cas lors d'une grande exposition de peinture qui fut très médiatisée, car elle réunissait les œuvres des artistes allemands de l'époque. Et elle s'est tenue en 1925 dans la ville de Mannheim, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Alors, la nouvelle objectivité prend en quelque sorte le contre-pied de l'expressionnisme, dans le sens où cet art s'évolue objectif et concret, c'est-à-dire en lien avec le quotidien tel qu'il est, et sans déformation, et non pas, comme pour l'expressionnisme, subjectif et reflet des états émotionnels de l'artiste, où tout est exagéré et en lien avec les mouvements imprévisibles de son âme, hein, si je puis dire. Et il est dit que ces artistes ont voulu montrer sans concession à leurs compatriotes l'état quelque peu déliquescent de la société d'après-guerre 14-18, avec son laisser-aller, voir ses dépravations et aussi les souffrances que la guerre avait générées autour d'elle. Et ce mouvement s'est répandu dans toutes les formes d'art, hein, comme la photographie, le théâtre, la littérature, la musique, hein, l'architecture, hein, qui devait être utilitaire, et bien sûr le cinéma, surtout à partir de la fin des années 20. Alors, le cinéma est réaliste, hein, bien évidemment. Le réalisateur et précurseur de ce type de cinéma se nommerait George Wilhelm Pabst, qui aurait traité des sujets divers, comme les conflits qui ont eu lieu au travail, la prostitution et même d'autres thèmes encore, hein, de la vie courante. Alors, je dois dire que je ne connais pas, hein, mais enfin, vous pouvez faire des recherches, hein, si ça vous intéresse. Des réalisateurs lui ont emboîté le pas, mais comme Erno Metzner, Gerhard Lamprecht, hein, pour les citer. Et c'est un mouvement qui prendra fin avec l'avènement d'Hitler au pouvoir en 1933 et sera qualifié, comme l'expressionnisme d'ailleurs, et d'autres mouvements dits modernes ou d'avant-garde, d'art dégénéré par le régime nazi, hein, qui lui imposera une forme d'art officiel, dit art héroïque, ce qui fera fuir bien des artistes de leur pays. Et pour se conforter dans cette idéologie face à la population, le régime nazi organisera une grande exposition en 1937 à Munich, où plus de 700 œuvres seront présentées comme un art dégénéré pour dénoncer les artistes décadents. Et parmi eux, des noms maintenant célèbres et connus de tous, comme Picasso, Chagall ou Nolde, dont les œuvres seront mises en comparaison avec des productions de malades mentaux, pour en confirmer en quelque sorte la parenté. Alors, toute la culture, l'art, sera contrôlée par le régime nazi, qui imposera bien sûr son dictat au cinéma. Les Juifs seront licenciés de l'UFA, UFA, qui est la grande société de production et de distribution allemande, qui fut fondée en 1917 et sera nationalisée sous le régime nazi. L'actrice-chanteuse qui deviendra, on va dire, l'égérie du cinéma allemand de l'époque nazie est une Suédoise, hein, qui se nomme Sara Leander. Elle a tourné dans des films plus ou moins d'amour, pseudo-historiques, hein, des romances, plus ou moins idéaliste, hein, où elle incarnait surtout les femmes fatales. Et je vous propose d'écouter sa belle voix chaude dans une chanson créée par le compositeur allemand Theo Macheben, tirée d'un film sur le compositeur Tchaïkovski, réalisé par l'allemand Karl Frölich en 1939, où elle jouait un ancien amour retrouvé quelques années plus tard. Film qui s'intitule en français « Page immortelle ».
Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht. Wir werden vom Schicksal getrieben und das Ende ist immer Verzicht. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Doch wenn wir uns dann verschenken, ist es das alte Aus Liebe weinen. Es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt. Und darum will ich heute hier gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören. Wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin dein. Wir kamen von Süden und Norden mit Herzen so fremd und so stumm. So bin ich die Deine geworden. Ich kann dir nicht sagen, warum. Denn als ich mich an dich verloren, hab ich eines anderen gedacht. So ward die Lüge geboren, schon in der ersten Nacht. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt, und darum will ich heut dir gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören, wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin
Alors notre réalisatrice allemande suivante est une cinéaste d'animation qui est née en 1899. Son nom est Lotte Reiniger. On peut dire d'elle, d'après ce que j'ai lu, qu'elle occupa le terrain du cinéma d'animation avant Walt Disney, ou encore d'autres cinéastes spécialisés dans cette matière, qui est globalement le dessin ou les objets animés. Alors il est dit que sa vocation démarra toute petite, car elle adorait déjà découper des silhouettes pour les mettre en représentation devant ses proches. À l'adolescence, elle garde ce goût, en s'intéressant de plus en plus au cinéma, dont elle pressent certainement qu'il va lui offrir des possibilités de développement personnel. Et elle en prend conscience grâce aux effets spéciaux qu'elle découvre dans le cinéma de l'illusionniste Georges Méliès. Puis elle fut ensuite captivée par les nouveautés de l'époque qu'elle découvrit grâce au film de Paul Wegener, et notamment le film intitulé « Golem », cet être créé en argile par un rabbin qui va s'animer grâce à une formule magique. Alors, je vous en ai parlé dans l'émission précédente, et c'est d'ailleurs une conférence de Paul Wegener, lorsqu'elle avait seulement 15 ans, qui lui fit entrevoir toutes les possibilités qu'offrait le cinéma, notamment dans l'animation, ce qui la motiva pour s'inscrire dans une école d'art dramatique, la Deutsches Theater, dirigée par un metteur en scène réputé, Max Reinhardt, où intervenait justement Paul Wegener. Alors évidemment, Lotte Reiniger espérait bien travailler avec lui, et c'est ce qui se passa, car elle fut remarquée par ce réalisateur qui lui proposa de réaliser pour ses films des génériques. Et en 1918, il lui demandera de réaliser des décors, des costumes et de pratiquer des trucages pour son film « Le joueur de flûte » de Hamelin. Et c'est ainsi qu'elle va se lancer, puis commencer à découper des silhouettes dans du papier, silhouettes qui seront ses premiers modèles et sa façon à elle de participer de manière singulière au cinéma d'animation. Et elle le fait dans un studio d'animation expérimentale d'un institut consacré à la recherche culturelle. Et elle commencera véritablement sa carrière de réalisatrice en 1919, à l'âge de 21 ans. Et là, elle réalisera alors son premier court-métrage intitulé, alors je dis en français, « Les ornements des cœurs amoureux », et d'autres courts-métrages suivront, comme « L'amour et le couple imperturbable » de 1920, « Le coffre volant et l'étoile de Bethléem » réalisé en 1921 et « Aschenputtel » en 1922. Alors j'ai lu qu'elle s'inspirait à la fois du théâtre d'ombre chinois, mais aussi des effets spéciaux qu'elle avait découverts, et je vous l'avais dit, grâce à l'illusionniste réalisateur Georges Méliès. Or, sa technique, qu'elle nomme « silhouette and film », c'est de placer sa silhouette sur une vitre transparente, avec un éclairage en dessous, et la caméra placée verticalement. Et ensuite, chaque image est filmée séparément et elle met ainsi les personnages en mouvement. Alors en 1923, elle s'attelle à la réalisation de son premier grand film qu'elle montrera au public en 1926. Il s'agit là du premier long film d'animation de l'histoire du cinéma puisqu'il dure 65 minutes et il est intitulé « Les aventures du prince Ahmed » où elle s'inspire des « Mille et une nuits ». Et il est dit que ce film comporte plus de 300 000 images, ce qui fait 24 images par seconde. Ça me semble énorme. Bon, c'est ce que j'ai lu. Là, il faudrait des spécialistes pour répondre, ou qui pourraient rectifier si je n'ai pas dit une bêtise. Enfin, quoi qu'il en soit, elle n'a que 26 ans lorsque sa renommée devient internationale et elle est reconnue comme un précurseur en la matière puisque Walt Disney arrivera, lui, 11 ans plus tard avec Blanche-Neige et les Sept Nains. Et paraît-il aussi, le cinéaste Fritz Lang aurait été enchanté par le film de Lloyd Reiniger. Or malheureusement, elle doit quitter l'Allemagne en 1935, en partie à cause de ses opinions politiques face aux nazis qui prennent le pouvoir, lesquels ont également promulgué une loi contre l'art dégénéré, ce qui fait fuir évidemment de nombreux artistes du pays. Alors j'ai l'impression qu'elle rentrait aussi dans le lot. En tout cas, il est dit qu'une grande partie de ses négatifs ont été détruits durant la guerre 39-40. Et elle part d'Allemagne pour s'installer à Londres et travailler pour un théâtre en réalisant des décors et des costumes. Et elle fondera même sa société de production, la Fantasia Production, pour continuer de produire des courts-métrages avec des silhouettes. Et sa carrière s'achèvera au Canada. Et l'Office national du film se chargera de produire ses deux derniers films entre 1976 et 1979. Et elle décédera en 1981 à l'âge de 82 ans. Mais son travail, qui est reconnu, reste quand même une référence et elle continue, paraît-il, encore d'inspirer maintenant les réalisateurs de films d'animation. Eh bien, nous achevons cette émission sur Lotte Reiniger. J'espère, malgré l'évocation de cette période allemande troublée, vous avez apprécié la rencontre de ces créatrices allemandes au cinéma ce début du XXe siècle. Ce n'est pas fini, car l'émission prochaine, nous continuerons à remonter le temps, ce qui nous conduira en pleine guerre 39-40 avec Hitler et le nazisme. Et nous verrons comment et quelles femmes s'en arrangeront. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.